puis, si, parce que ça s'enregistre. Donc, ce n'est pas pour vous, c'est pour les millions qui vont écouter par la suite. Ah ouais, c'est ça. Oui, 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 sans doute. OK. Alors, le sujet cet après-midi, c'est Dieu, le travail et nous. Et je vais commencer, ça va prendre au moins une dizaine de minutes pour raconter mon histoire, mon témoignage, si vous voulez, en ce qui concerne le travail. Et je pense que le témoignage lui-même va soulever quelques questions, quelques principes aussi. Donc, mon parcours de travail, j'ai fait mes études de droit il y a très très longtemps en Angleterre, à la fin des années 70. 1900. Ah ouais. Mais avant de commencer un stage dans un cabinet d'avocat, j'ai passé toute une année au Kenya, en Afrique de l'Est, où j'ai travaillé en tant que bénévole pour une organisation missionnaire américaine, Africa Inland Mission. Et en fait, même aujourd'hui, beaucoup d'années plus tard, je suis toujours marqué par cette expérience, la pauvreté que j'ai vue, la culture évidemment très différente que la culture britannique. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, même plus, il y a quelque chose qui reste. Donc, en rentrant en Angleterre en 1900, j'ai failli dire 800, mais 981, j'ai commencé un stage de 2 ans dans un cabinet d'avocats à Manchester. Et j'ai rejoint une super église là-bas qui faisait partie d'une famille d'églises un peu comme nous, Nouvelle Frontière, New Ground, un peu comme ça. Et c'est là, dans cette église-là, que j'ai rencontré Jill. Donc, c'était une expérience très, très bénie. 2 ans plus tard, fini le stage, je me suis qualifié en tant qu'avocat. Et c'était aussi l'année de notre mariage, 1983. Et mon cabinet d'avocat, à ce moment-là, m'a transféré à leur bureau dans une autre ville, leur antenne, Blackburn. Et un an plus tard, notre fille Sarah est née. Puis un an après, 1985, nous avons déménagé. Et c'était pour nous impliquer dans une nouvelle église. Maintenant, on dit implantation d'église, mais à cette époque-là, on n'utilisait pas le mot implantation, mais impliquer dans une nouvelle église près de Londres. Et en fait, dans ma ville natale. Et cette église-là avait été commencée, démarrée par 3 couples, dont mes parents. Donc moi, je voulais vraiment que ça implique avec eux. Donc, déménagement. Et puis, j'étais avocat. Et il me fallait un travail. Et dans cette ville-là, c'était une petite ville de 25 000 personnes. Il y avait des cabinets d'avocats. Dans 3 cabinets assez grands, taille moyenne, etc. Mais le plus grand, en fait, était un cabinet qui avait été commencé par mon grand-père des années auparavant. Et moi, puisque je portais le même nom de famille que lui, que le fondateur de ce cabinet d'avocats, il fallait que je travaille pour eux. Parce que ça aurait été presque impossible pour moi de travailler dans un autre cabinet. Heureusement, les associés, et l'associé principal à l'époque était mon oncle, m'ont offert un poste dans ce cabinet-là, ce qui était bien. Mais j'ai passé quand même un entretien d'embauche, et là, j'ai expliqué aux associés de ce cabinet que, en fait, je ne voulais pas travailler en tant qu'avocat toute ma vie. Pourquoi ? Parce que je croyais que Dieu m'avait réservé quelque chose d'autre. Je ne savais pas exactement quoi ni quand. mais il y avait quelque chose quand même. Les associés de ce cabinet-là n'étaient pas chrétiens, mais j'ai expliqué ouvertement. Voilà, ils m'ont pris. Mais j'ai dit aussi, jusqu'à ce moment-là, bien sûr, j'essayerai de bosser dur pour vous. Et voilà, j'ai été accepté. Au niveau de l'église, cette église-là, dans cette ville, a rejoint Nouvelle Frontière 2 ans plus tard, je pense. Et après un peu de temps, moi, j'ai été nommé ancien comme Andrew ce matin. Si on regarde les anciens, il y en a dans les églises partout dans le monde, il y en a qui travaillent à ce qu'on appelle temps complet. Ils sont salariés pour et avec de l'église. Et d'autres qui sont bivocationnels, donc ils ont un mi-temps pour l'église et un mi-temps ailleurs dans le monde des affaires ou autre. Et il y en a une troisième catégorie d'anciens, dont moi à l'époque. Je travaillais à 0 temps. Minimum. Et ce n'était pas évident, mais c'était le cas. Donc, pour moi, j'ai dû prêcher une fois toutes les 6 semaines, je pense, à l'époque. Et c'était la préparation était très courte. Donc, à midi, pause midi, pause déjeuner pour les avocats, j'ai sauté dans la voiture et j'ai roulé à 1 kilomètre jusqu'à dans la campagne. Je me suis arrêté et j'ai pris la Bible, un stylo et une feuille blanche et j'ai commencé à écrire des notes pour la prédication du dimanche. Et une demi-heure plus tard, il fallait que je rentre bosser. Et donc, peut-être 2 fois dans la semaine, j'ai fait ça. Et dimanche, d'accord, ok, on commence. C'était difficile, c'était un minimum. Dieu est fidèle. Il y avait beaucoup de prières pour que Dieu il m'accorde la grâce. Et l'Église a survécu, même mes prédications à l'époque. Et cette période-là était très riche pour moi, et en même temps, très chargé. Je ne faisais pas des heures stupides, comme beaucoup. Mais quand même, mon travail était fatigant. Et je me souviens que lors de nos vacances d'été, habituellement une quinzaine de jours, la première semaine, je ne faisais rien. Juste repos, récupération, je le faisais. Ce qui n'est pas juste, mais c'était le cas, merci beaucoup. Mon salaire augmentait au fur et à mesure. Et je gagnais bien ma vie. Je n'étais pas riche, je n'avais pas une voiture comme ça. Mais c'était au-dessus de la moyenne, sans doute. 2 autres enfants sont nés, Michael Philippe, donc 3. Je jouais du sport le week-end, toute l'année, 2 sports, hiver, été, à niveau relativement bon. Donc pour moi, c'était vraiment important. Et on avait alors un cocktail d'éléments différents dans la vie. J'étais mari, papa, avocat, je jouais des sports, j'étais aussi ancien dans une église qui grandissait. Et ce n'était pas facile du tout. Ce n'est pas bien finalement pour moi, pour Jill, pour la famille, ni pour l'église. Mais c'était le cas. Et puis, en novembre de 1992, je travaillais pour un client assez prospère. Et sur un grand nouveau projet du développement immobilier. Donc, il achetait une ancienne prison, un campus énorme près de Cambridge, et il allait transformer tout ça en zone industrielle, commerciale ou quelque chose comme ça. Et ça lui coûtait des millions Et moi, j'étais franchement fier d'être son avocat dans ces affaires-là. Parce que c'était du lourd. Et un jour, mon bureau, table, était rempli, complètement encombré de papiers, que ce soit des baux, des contrats, des documents, voilà, beaucoup. Et il fallait que je rédige une clause pour un contrat. Et ça, je trouvais très difficile. Qu'est-ce que je devrais écrire? Et comment bien formuler ça pour que ce soit bien? Et je ne savais pas. Et à ce moment-là, je me suis adossé à ma chaise. J'ai fermé mes yeux pour bien réfléchir. Et Dieu m'a parlé. Il m'a posé la question, que fais-tu ici? Et c'était un peu comme Dieu qui parle à Élie dans l'Ancien Testament, un roi de 19. Que fais-tu ici, Élie? C'était la question que moi j'ai reçue de lui. Et je savais que c'était Dieu. C'était absolument clair. Et je n'avais pas de réponse intelligente. Je suis en train d'enrichir un homme déjà riche. Ça te va. Et en fait, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais je savais que Dieu, en me posant cette question, était en train de me dire, stop, ça suffit pour toi. Maintenant, j'ai quelque chose d'autre pour toi. Il avait attiré mon attention. Le moment était venu pour moi de changer de cap. Donc, Jill et moi, on a bien discuté, on a prié ensemble, et puis avec les responsables de l'église locale, bien sûr, et la conclusion unanime était que je devais démissionner du cabinet et pour commencer à travailler à temps complet pour l'église en tant que membre du staff pastoral. J'ai démissionné. Du coup, et comme vous pouvez peut-être imaginer, il y avait des réponses assez différentes, réactions de mes amis, de mes collègues, etc. Et je pense que je peux voir trois catégories de réponses. Il y avait des gens qui, beaucoup en fait, qui disaient, ou même qui pensaient sans doute, tu es complètement fou d'abandonner un avenir sûr et aisé. D'autres, pas autant, mais d'autres, disaient, je ne comprends pas ce que tu fais, mais tu n'es pas stupide. Et alors, courage. Et une seule réponse, réaction, venant de la seule personne qui était chrétienne dans ce cabinet, par moi, lui, il a dit, bravo. Donc, en avril 1993, j'ai commencé à travailler pour l'Église. C'était tellement différent. Le journal local de la ville a écrit un article me concernant parce que c'était tellement inhabituel pour un avocat dans une petite ville assez connue alors, de tout abandonner pour servir une église. Mais oui, c'était différent pour nous au niveau du revenu, etc., absolument. Mais il y avait deux choses qui nous ont énormément encouragés. La première, la fidélité de Dieu. Deuxième chose, liée, la générosité de l'Église. C'était une Église qui ne voulait pas que je sois pauvre. C'était une Église qui voulait pouvoir à nos besoins. Et donc, elle était généreuse. On n'était pas riche dans ce sens-là, mais on avait tout ce qu'il fallait. Merci Seigneur. Et 4 ans plus tard, Dieu nous a appelés à déménager pour aller ailleurs en Angleterre, dans la ville de Coventry, pour y implanter une église. Et j'ai été soutenu tout de suite, depuis toute une année, par la famille d'église Nouvelle Frontière, financièrement. Je n'avais pas d'emploi d'autre. Mais pourquoi? Parce que cette famille d'église, et moi personnellement j'aimerais revoir ça un peu ici en France, pour la famille, l'implantation des églises était si importante qu'ils voulaient soutenir, ressourcer l'implantation. Même depuis le début, quel privilège pour nous, la générosité des autres. Et peut-être, comme vous savez, 10 ans plus tard, on a reçu un nouvel appel, et cette fois c'était pour quitter Coventry pour venir en France, Paris plus précisément. Et on l'a fait. Et pendant la première année, nous n'avions aucun revenu à nous. On ne pouvait vendre notre maison en Angleterre parce que c'était l'année du crash économique, financier, etc., 2008. Notre fils allait se marier, donc il y avait beaucoup de « Oula, qu'est-ce qu'on va faire ?» Pourtant, nous avons cette année-là reçu beaucoup de dons de personnes différentes, églises différentes, très généreuses. Dieu est fidèle toute cette année. Et après cette année-là, j'ai commencé un emploi salarié à mi-temps pour une école de langue près de l'Opéra Garnier à Paris. Et en même temps, plus ou moins, la nouvelle église a commencé à me rémunérer à mi-temps. Donc moi, je devenais bivocationnel. Donc j'ai un peu toutes les expériences. En 2013, on a quitté Paris pour descendre à Lyon pour implanter une église là-bas avec une super équipe. Maintenant, c'est l'église Confluence. Alléluia. Et là, pendant 10 ans, je donnais des cours d'anglais, mi-temps encore, aux avocats lyonnais. Et je peux vous dire, j'ai adoré ce travail, de les rencontres, connaître les avocats, leur apprendre quelque chose et surtout le côté évangélisation, mission, les questions qui venaient tout le temps. Pourquoi vous êtes en France? Dieu m'a appelé avec Dieu. Ah bon? Toujours. Donc c'était une aventure dans l'évangélisation. Donc, 10 ans à Lyon, et maintenant nous sommes de nouveau à Paris, et je suis maintenant semi-retraité. Donc, je reçois la retraite britannique de l'État, et pas encore la partie française, ce sera pour l'année prochaine, je pense. Et 2 jours par semaine, je suis rémunéré par la famille d'église Newground en France. Merci. Donc, je serai bientôt pleinement retraité et puis cette rémunération va s'arrêter. Mais en fait, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de retraite. Jamais. Parce qu'on veut toujours faire partie d'une église vivante comme vous. On sera toujours missionnaire partout, tout le temps. Il n'y a pas de retraite. C'est seulement là, l'argent vient d'ailleurs. C'est bien. Donc, voilà mon parcours. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est de vous donner quelques principes qui touchent un peu le travail. Et après, peut-être on pourrait avoir un temps question-réponse. Je ne sais pas ce que vous faites normalement. Et ce n'est pas nécessaire de trop tarder cet après-midi. Mais déjà, des choses à vous partager, peut-être défier aussi, on verra. Première chose, le travail est un don de Dieu. Ce n'est pas une corvée, c'est un don de Dieu. Même en Genèse, tout au début, on voit que l'Éternel Dieu, il prit l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden. Pourquoi ? Pour qu'il le cultive et le garde. Genèse 2, verset 15. Donc, depuis le début, le travail fait partie du plan de Dieu pour l'humanité. Et ça reste toujours le cas. Donc, si vous travaillez, vous pouvez considérer l'acte de travailler comme un don de Dieu. Même si vous n'aimez pas actuellement votre travail, c'est toujours un don de Dieu. Et Dieu nous donne de cadeaux et de bons dons. C'est un don de Dieu. Et si on reçoit un cadeau, on fait quoi? Parfois, les petits-enfants ne le font pas, mais normalement, je te donne quelque chose, tu dis « Yes !» On remercie le donateur pour le don de travail. En fait, en parlant de nos petits-enfants, mercredi, c'était le 9e anniversaire de notre petit-fils Joseph, qui habite près de Londres. Et il nous a contactés tout de suite. C'était à 8 heures l'heure anglaise, après avoir déballé son petit cadeau, etc., pour nous remercier. C'était mignon. On remercie le donateur pour son don. Et le donateur est Dieu lui-même pour le travail. Et avant de passer à une autre chose, j'aimerais aborder quelque chose qui n'est pas tout à fait en lien, mais c'est une question intéressante quand même. Donc peut-être juste pour vous garder éveillé, question, est-ce qu'il y aura du travail pour nous aux cieux? C'est une très bonne question. Je doute qu'il y ait une réponse hyper claire dans la Bible. C'est ça le problème. Il y a quand même des indices. Et je vais vous donner 3-4 indices qui montrent probablement qu'il y en aura, plutôt que l'inverse. Par exemple, Dieu lui-même est un travailleur. Il travaille. Ça se voit en Genèse, par exemple. Et nous sommes créés en l'image de qui ? L'image de Dieu. Donc c'est un indice, déjà. Jésus a dit, mon Père travaille jusqu'à présent. Et moi, je travaille. Et nous, on s'appelle chrétien, petit Christ. Ça montre peut-être quelque chose là. Deuxième indice. Dieu a créé l'homme pour travailler. Donc, au début, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient là pour travailler. On est créé pour ça. Troisième chose, les paraboles de Jésus indiquent une responsabilité future. Par exemple, Luc 19, « C'est bien, dit le maître, tu es un bon serviteur. Tu t'es montré fidèle dans une petite affaire. Je te nomme gouverneur de 10 villes. » Est-ce que ça parle de... On n'est pas sûr, mais c'est un indice. Quand même. Et la dernière chose, Éphésiens 2, verset 10. Nous sommes nés de nouveau pour de bonnes œuvres. Est-ce que ces bonnes œuvres vont s'arrêter le jour de notre mort ou pas? C'est pas clair, c'est un indice. Le travail est un don de Dieu, ça c'est clair. Soyons reconnaissants. Deuxième chose, il y en a cinq. Ceux qui sont en mesure de travailler devrait le faire. L'Ancien Testament fait l'éloge du travail. L'Ancien Testament condamne la paresse. Ecclésiaste 10, verset 18 par exemple, « Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'effondre. Et quand on a les bras ballants, la maison finit par avoir des gouttières. » Donc, le travail plutôt que la paresse. Et puis, on entre dans le Nouveau Testament, et il y a des choses dans le Nouveau Testament par rapport au travail et la paresse assez fortes. 2 Thessaloniciens 3, par exemple. L'apôtre Paul, il semble réprimander certains chrétiens qui refusent de gagner leur vie. Je vais lire un petit passage de 3 versets. Chapitre 3, 2 Thessaloniciens, verset 10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Oula. Et nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous mènent une vie désordonnée. Ils ne travaillent pas, mais se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces gens-là et les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement pour manger leur propre pain ou gagner leur vie. C'est fort ce que Paul dit là. Mais attention, parce que ce passage ne s'adresse pas aux personnes qui ne trouvent pas de travail, mais plutôt à celles qui peuvent travailler et qui ne veulent pas. C'est important de le souligner. Donc c'est un don. Il faut travailler si on peut. Troisième chose, quand on travaille, on fait ça pour la gloire de Dieu, quel que soit le travail. Tout ce que vous faites, Colossiens 3, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Et sans doute, vous connaissez les gens qui n'aiment pas leur travail. Il y en a plein. Il y a d'autres qui ont vraiment du mal à s'entendre avec leur patron, leur chef. Et je ne sais pas si vous savez, mais des études, surtout aux États-Unis, montre que de manière générale, les gens quittent leur patron plutôt que leur travail. 50% de gens qui ont été sondés ont quitté au moins une fois leur travail, leur emploi, à cause d'un, selon eux, mauvais patron. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur pour la gloire de Christ. C'est lui que vous servez. Et donc ces paroles de Paul devraient nous encourager, devraient nous stimuler, parce que le chrétien, la chrétienne travaille en fin de compte pour Christ. En France, il y a une expression, c'est moi le patron. C'est Christ le patron. Même si vous n'aimez pas votre manager, chef, patron, finalement, c'est Christ. On travaille pour lui. Ainsi donc, en Corinthiens 10, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une cause de chute. Ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ça doit être la chose la plus importante de dire sur ce sujet, sur n'importe autre, quel autre sujet. La gloire de Dieu d'abord. Donc, pour vous, pour vos amis, pour l'Église, que vous prépariez des sandwichs au beurre de cacahuète, pour votre travail, que vous tapiez des mails 8 heures par jour au cabinet ou au bureau, que vous êtes politique, médecin, avocat, comptable, professeur, etc., infirmier, que vous laviez des toilettes. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et je pense que si nous avons cette attitude-là, ça va changer beaucoup de choses. Et ça va aider d'autres choses à nous regarder d'un œil différent. Parce que nous, on est différents. On est tous des missionnaires au travail. Encore un peu de ça plus tard. Quatrième chose sur les cinq. Travailler, oui, et se reposer. Exode 20, Dieu parle du sabbat. Et moi, je trouve que nous avons, pas complètement, mais jusqu'à un certain point, oublié, ignoré le sabbat de Dieu. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire, mais le 7e jour est le jour de repos pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni tes animaux, ni l'étranger qui habite chez toi. Donc moi, en tant qu'étranger, je ne peux pas travailler ici le dimanche. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et on a fait un jour saint. Et notre culture, nous vivons dans cette culture qui ignore ce commandement. Et ça touche l'Église aussi. Mais il reste, le sabbat reste toujours important aux yeux de Dieu, même si nous avons oublié. Nous avons peut-être l'étudiant qui dit par rapport au dimanche prochain, « Ah ben je suis désolé, mais je ne peux pas venir ce dimanche parce que... » Parce que quoi? J'ai mes partiels dans un mois. D'accord. Parce qu'il travaille tout le week-end. Et puis, quelqu'un dit, encore peut-être étudiant, étudiante, il y en a plein à Paris. Désolé pour hier, je n'ai pas pu venir. Oh, pourquoi? Parce que j'ai dû rédiger mon mémoire. Ok. Mais en 6 jours, Dieu a fait ça, 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 ça. Et puis, j'étais encore au bureau, désolé, dimanche matin, et comme d'habitude en fait, et on avait de nouveau une urgence. Parfois, on est tellement accroché à son travail que voilà, où se trouve l'Église? Où se trouve la joie d'être ensemble? Où se trouve ce jour saint dont parle Dieu? Oh, désolé, je dois préparer la semaine prochaine, ce dimanche. Donc, je ne peux pas venir. Nous, on n'est pas légalistes. Il y aura des moments où on ne peut pas venir, où on ne va pas venir. C'est clair, pas de problème. Mais il y a, il me semble, une maladie un peu dans nos églises qui fait en sorte qu'il y a n'importe quoi qui se lève et puis la personne, « Ah non, je ne peux pas venir. » Oh, ben c'est louer le Seigneur avec mes frères et mes sœurs le dimanche, c'est absolument primordial, quelle joie. Je ne veux pas être ailleurs. Dieu a créé le travail, c'est un don. Et en même temps, il a créé le repos. Et c'est important aussi. Il n'a jamais voulu que son peuple soit un bourreau du travail tout le temps. Et il y en a plein de gens qui le sont. Notre travail, donc, ne doit jamais être, ce n'est pas destiné à devenir le centre de notre vie, le travail. Cette place, le centre, n'appartient qu'à Dieu seul, ne revient à Dieu seul. Je vais raconter une conversation que moi j'ai eue avec une avocate à Paris il y a 12-13 ans. Elle avait 35-38 ans, quelque chose comme ça. Elle me disait devoir bosser 70-80 heures par semaine. J'ai dit ok, je peux vous poser des questions là-dessus? Elle a dit oui. Est-ce que vous avez des enfants? Ah ouais, 2 ans, 4 ans. Ah, génial. Tu les vois beaucoup? Ah non, 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 pas trop. Pas trop, parce que en semaine, c'est pas possible. Et puis le week-end, soit je travaille un peu, oui, soit je suis franchement trop fatigué. Ah d'accord. Je vois. Est-ce que vous pensez que dans X années, vous allez mourir? C'était un cours d'anglais. Elle a dit, oui. Et puis, je lui ai dit, pensez-vous que quand ce jour-là vous arrive, vous vous direz, comme je regrette de ne pas avoir passé beaucoup plus de temps au cabinet dans ma vie? Me regardait. Ou, j'ai continué, pensez-vous, peut-être ce jour-là, vous allez dire, j'aurais dû passer plus de temps avec mes enfants. Elle m'a regardé, ébahie, choquée en fait. Et puis, elle s'est levée, ce n'était pas forcément la fin du cours, elle s'est levée, elle est partie, elle n'est jamais revenue. Ouf. Mais je voulais poser des questions là, parce que c'est important, elle était esclave. Esclave de quoi? Finalement, esclave de l'argent. On pourrait dire qu'elle était esclave de son employeur, les associés de son cabinet. Oui, un petit peu, parce que si elle ne bossait pas comme ça, peut-être elle allait perdre son travail. Esclave donc. Ou esclave de ses clients, oui aussi. Parce que si elle ne répondait tout de suite, si elle n'avait pas la réactivité requise, exigée, le client allait chercher ailleurs pour un avocat encore plus stupide. Esclave, mais finalement esclave de l'argent. Parce que si elle n'avait pas de travail, finalement, c'est l'argent. Et Dieu veut qu'on soit esclave à lui, pas à n'importe quelle autre chose. Le repos du sabbat est important pour nous. Et ainsi de faire de lui, ce jour, une journée sainte. Je pense que dans nos églises, il faut un peu insister là-dessus. Enseigner et montrer un modèle, exemple. Mais c'est tellement important. Un don de Dieu, le travail, mais aussi le repos. Dernière chose, si vous travaillez, ou que vous travailliez ou pas, vous êtes missionnaire pour Jésus-Christ. Et moi, je suis anglais, j'habite en France, et on me demande parfois si donc je suis missionnaire. Je dis oui et non. Oui, je suis missionnaire, mais ce n'est pas donc. Je suis missionnaire parce que je suis chrétien. Et vous, monsieur, madame, vous êtes chrétien? Oui. Et vous n'êtes pas missionnaire? C'est n'importe quoi. Je plaisante un peu, mais je veux pousser un peu. On est tous missionnaires. Comment le chrétien ou chrétienne peut-être non missionnaire? C'est pas possible. On est tous appelés. Vous êtes tous missionnaires pour Christ, que vous travailliez ou pas, que vous soyez au travail, que vous soyez chez vous, au magasin, dans la rue, n'importe où, nous passons 35 heures ou plus par semaine au travail, est-ce que ce temps-là doit être non missionnaire? Ah ben non. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, sauf si vous travaillez. Dans ce cas-là, vous êtes, ah ben non, excusez. On est appelé, on est envoyé. Mais je ne suis pas en train de dire que je dois arriver au bureau à 9 heures du matin pour m'installer aux côtés de la machine à café toute la journée avec ma Bible et à tous ceux qui passent, prennent le café, je prie pour eux, je chante la louange et je prie pour la délivrance. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais simplement être fidèle à Jésus-Christ là où il nous place. Sinon, on va être viré tout de suite. Et le travail, c'est un don. Ce n'est pas quelque chose d'ordre. Et pourtant, le travail nous offre une très belle opportunité d'être différents du monde. On est différents parce que nous avons un maître différent. Nous sommes différents parce que nous avons une nature différente. Et nous vivons selon des valeurs différentes. On est différents. Des exemples en pratique, on ne s'engage pas dans les commérages, etc. On démontre une joie, même quand ça devient un peu chaud au travail, avec peut-être des collègues. On reste dans la paix, même quand le risque d'être licencié arrive. Ah, mais il y a une différence. Eux, ils s'affolent dans la panique. Et lui, il reste dans la paix. Ah bon? On travaille en tant que chrétien de façon dure et constante. On respecte et on se soumet au patron, même quand il est exécrable. C'est différent. Et on encourage les autres autour de nous. Au travail, on les remercie, on les apprécie, on les encourage. Ce qui est vraiment de la contre-culture. Il n'y a pas d'encouragement au travail, sauf si les chrétiens s'en engagent. Et si on est manager, chef, patron, soit, ben encore plus important de montrer quelque chose de différent, de se montrer différent. À Paris, j'ai travaillé pendant 3-4 ans pour cette école de langue. Et pendant ce temps-là, je n'étais pas un professeur horrible, terrible. Oui, je faisais bien mon travail. Mais jamais, personne ne m'a jamais dit, « Georges, tu fais quelque chose de bien là. » On est reconnaissant, on apprécie beaucoup ce que tu fais. Et jamais. Mais quand je me suis planté et j'ai fait une bêtise, etc., ben là, une fois, il y a longtemps, Jill a fait la cuisine et c'était du riz. Et dans le bol de riz qu'elle m'a offert, j'ai trouvé un grain noir. Je dis, c'est quoi ça? Elle a dit, c'est un grain noir. Et puis elle m'a dit, c'est une leçon qu'on doit apprendre de son épouse. Mais Georges, pourquoi tu ne dis pas, voilà, regarde combien de grains blancs. Tu ne regardes que le noir. Et c'est comme ça au travail. On regarde les choses dignes de la critique, mais on ne jamais se concentre sur le bon. Le chrétien et la chrétienne, on est différents. On est vraiment différents. Notre ami Philippe travaillait pour une grosse société dans ce que j'appelle the big pharma, pharmaceutical. C'était GlaxoSmithKline à l'époque. Et un jour, une de ses assistantes, Emma, elle est venue le voir. Elle dit à Philippe, « Comment se fait-il que tu sois si différent des autres ?» Et il a répondu, « Que veux-tu dire ?» Elle a évoqué ses attitudes différentes. Et puis, il a compris, « Oh, peut-être c'est parce que je suis chrétien. C'est quoi ça ?» Jésus a changé ma vie. Ah bon ? Il peut changer la tienne. Ah bon ? Et puis, il l'a invité à faire un parcours alpha avec nous dans l'église. Et là, elle a donné sa vie à Jésus. Elle a rejoint l'église. Alléluia. Mais tout ça a commencé. Pas par un témoignage fort avec les paroles partout, mais tout simplement parce que cette personne-là était différente. Elle voulait savoir pourquoi et comment. Alors, une conclusion, puis peut-être on peut avoir quelques questions s'il y en a. Où que vous soyez, travaillez pour Dieu et pour sa gloire. Certains seront appelés à une carrière dans les affaires. Mais c'est super. C'est vraiment bien. On n'est pas là, si c'est vous, pour y faire la fortune. Mais pour y faire une différence pour le nom de Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu. Et pour devenir ou pouvoir être des donateurs généreux pour la gloire de Dieu. Que ce soit pour à l'église, les missions, etc. Mais Dieu appelle les gens à avoir des vies comme ça. Donc il y a certains comme ça. Il y a certains d'autres qui sont appelés carrément à quitter un travail pour en faire un autre. Parce que, par exemple, le travail est trop contraignant. Ça ne te laisse assez de temps pour le mariage, le couple, la famille, l'église, etc. Donc, on peut changer pour en trouver quelque chose de plus convenable. Ou si le travail vous entraîne dans des activités un peu louches. Voilà, on dit non. On ne veut pas faire ça. C'était très intéressant ce matin de prier pour ce groupe qui vont dans une maison close cette semaine, je pense, pour le culte, Eric et les autres. Une fois, quand j'étais avocat, une cliente m'a appelé, une nouvelle cliente. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Bon, ça dépend, mais c'est quoi ça ? Et puis elle a commencé à expliquer son projet, nouveau projet. Nous, on va acheter une maison. Vous allez voir. D'accord, ok. Et ce sera quoi ? C'est une société ou autre ? Ce sera plutôt un partenariat. Ok. Combien de partenaires associés ? 3, d'accord. Quelle part ? 33% ou autre. Donc j'ai noté tout ça. Et après un quart d'heure de questions-réponses, j'ai dit, Et quel serait en fait l'objectif, le but de cette entreprise ? Et puis pause, silence. Madame, il faut que je sache parce qu'il faut que j'écrive quelque chose. Vous voyez, ce sera une maison, on va embaucher quelques filles. Ah, d'accord. Madame, je refuse de faire ce que vous voulez que je fasse. Désolé, au revoir. Elle a appelé les associés tout de suite pour me dénoncer. Et merci Seigneur, les associés m'ont soutenu en disant la même chose. Non, désolé madame, on ne fait pas ça. Mais si le travail nous entraîne dans des activités louches ou même pires, on dit non. Pourquoi ? Pour la gloire de Dieu. Et certains d'autres seront appelés à quitter le monde de travail séculier pour travailler pour Dieu, mi-temps, zéro temps, mi-temps ou plein temps. C'est super. Ni l'un ni l'autre n'est mieux que les autres, meilleur. On est égaux aux yeux de Dieu. Dieu appelle et nous on fait tout pour la gloire de Christ. Aucun n'est plus important que les autres. Confiez-vous à Dieu. Suivez-le dans le travail et c'est pour sa gloire. Amen. Ok, je vais trouver une chaise pour m'asseoir. Nous pouvons avoir un temps de questions-réponses, sauf si vous devez partir tout de suite. Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Mais sinon, je propose un quart d'heure ou autre. Voilà. Et si on enregistre, peut-être pour les questions, il faut qu'on répète les questions, sinon ce sera perdu. Ok. À vous. C'était super, hyper limpide, il n'y a pas de problème, pas de questions, voilà, on fait tous pour tout pour la gloire de Dieu déjà. Oula. Super, très bien.
Si on est face à un jeune qui dit qu'il pense qu'il est appelé pour la mission et qu'il aimerait s'engager tout de suite, est-ce qu'il faut le conseiller à quand même entrer et découvrir le monde du travail avant ou l'encourager tout de suite à la mission ?
Merci beaucoup. Finalement, la réponse doit être qu'est-ce que Dieu est vraiment en train de dire? Parce qu'il se peut que cette personne-là soit appelée tout de suite à rentrer dans la mission comme tu décris. Mais de manière générale, à mon avis, si il n'y a pas cette clarté d'appel, voilà, carrément maintenant, ce serait bien d'avoir l'expérience du monde dans lequel on vit. Personnellement, je trouve que c'est bien pour les responsables d'avoir un peu d'expérience. Sinon, il n'y a pas autant d'accessibilité. Les gens aimeraient savoir que tel ou tel est responsable dans l'église. Ils comprennent ce que je vis. Donc, si je parle des principes, de manière générale, je dirais ça, mais ça se peut quand même. Autre chose, s'il y a un jeune qui se pose la question, je te conseille de lui en parler, prier avec, mais aussi d'en parler un peu avec les responsables de l'Église. Parce qu'il peut y avoir quelque chose. Et eux, ils sont au courant d'un nouveau projet, ce serait absolument parfait pour lui, pour elle, de commencer. Donc, attention, Dieu, il sait tout, mais il faut chercher, vraiment sonder sa parole. Ok. D'ailleurs, très bonne question.
Je viens d'une famille d'église où il n'y a que des pasteurs salariés et avec pas forcément d'anciens efficaces. Et comment la différence entre anciens 0, 100%, enfin d'un côté ou d'un autre. Comment c'est vécu vis-à-vis de toi et vis-à-vis de l'église et des chrétiens. Je sais pas si la question est claire.
Oui, la question est claire. Certaines églises ont des responsables seulement qui sont salariés, rémunérés par l'église. Certains d'autres, vous par exemple actuellement, il n'y a personne comme ça parmi les responsables. Encore une fois, on regarde les principes. Les principes doivent être que les responsables, qu'on les appelle ici les anciens, doivent avoir suffisamment de temps entre eux pour diriger les affaires de l'Église et la mission de l'Église. Et si ce n'est pas le cas, donc il faut être radical là-dessus. Pour vous en tant qu'Église, nous, Newground France, nous prions pour vous. En tant qu'Église, et nous prions que Dieu vous aide à pouvoir libérer, peut-être petit à petit, je ne sais pas, mais je pense que dans votre avenir ici, il y aura quelque chose comme ça. Mais je ne suis pas pour une situation où chaque ancien doit être rémunéré. Je ne suis pas pour ça, pour les raisons que j'ai déjà évoquées. C'est bien d'avoir un peu de contact dans le monde. Andrew ici, par exemple, il fait des voyages, il a des rencontres avec des ministres, etc., dans des pays différents. C'est super parce que lui, il est chrétien, il fait ça pour la gloire de Dieu. Et si lui, il était payé par l'Église, et Faridé, Pierre et les autres qui viennent, peut-être pas. Mais aussi, si l'Église va grandir, les besoins vont grandir avec. Et donc, libérer les responsables sera quelque chose d'important. Je prie pour ça.
Est-ce que ça peut pas être multiplié ? Est-ce que ça peut pas être multiplier les responsables ?
Ça veut dire ?
Avoir plus d'anciens.
Oui, mais on ne nomme pas des anciens juste pour en avoir plus. Dès que on doit nommer quelqu'un, lui aujourd'hui, bon, en France. Mais le fait d'avoir 6-7, oui, il y aura un peu plus de force, on dirait, mais attention, on n'impose pas les mains de manière trop rapide, trop vite.
C'est pas la charte de travail qui doit appeler les anciens.
Non. On est appelé. Et puis on reconnaît l'appel et puis on va avec. Oui, il y a une charge aussi. Ouais. Donc les deux sont importants. Oui, Dieu a raison. Le rôle, et même dans cette église, c'est très important, du diaconat, les diacres. Oui, c'est magnifique. Les diacres sont là pour aider, pour servir les anciens et pour les libérer aussi. Sans les diacres, les anciens, on dirait, devraient faire tout. Et les diacres peuvent prendre des choses très importantes et très, très lourdes aussi parfois dans l'organisation, etc. Et ça se passe bien ici et dans d'autres églises d'ailleurs, c'est bien.
Diacre chez les catholiques et chez les protestants, c'est pareil ?
Non, pas forcément la même chose. Pour nous, une église est dirigée, comme disaient Farid et Stuart ce matin, par les anciens, une équipe. Aidée par une équipe de diacres. Dans l'église catholique, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais forcément ce sera un peu différent parce que là, il y a un prêtre, etc. etc. Non. Mais ce que vous avez, c'est vraiment bien. Merci Seigneur.
Est-ce qu'il existe des femmes pasteurs, des anciens pasteurs, femmes, parce qu'on n'en parle pas beaucoup.
D'accord, ok. Même si ce n'était pas forcément le sujet d'aujourd'hui, c'est toujours un sujet important et brûlant d'ailleurs. Stuart, en fait, il a dit ce matin, pendant son partage, que pour les anciens, ce sont des hommes. Pourquoi ? Parce que la Bible en est claire. En même temps, le diacre peut être la diacre, diaconesse. Et donc vous avez les deux. Et c'est super. Merci Seigneur. Ouais, sois béni Seigneur.
Tu as parlé aussi du repos et du travail. Non. Où est-ce qu'il est en... Je sais que ce n'est pas une réponse facile à donner, mais le curseur. Quand est-ce qu'on sait que là, c'est trop ? Ou à l'inverse, quand est-ce qu'on sait que ben là, peut-être que ce n'est vraiment pas assez et qu'il faudrait que je le monte un peu plus ?
Et tu parles là du travail trop ou du repos trop ? Travail trop. Ouais. Si la personne est mariée, on demande à l'époux ou l'épouse. Qu'est-ce qu'elle en pense? Niveau fatigue, etc. Et normalement, la personne qui travaille trop, ça se voit, ça s'entend. Il y a quelque chose qui... Est-ce qu'avec cette charge de travail, cette personne-là peut être aussi impliquée dans toutes les activités de l'Église, etc. Et petit à petit, peut-être il s'éloigne. C'est possible, donc peut-être c'est trop. Ou une autre personne peut passer par des périodes très, très chargées. Et ce n'est pas, c'est pas mauvais, parce que c'est une période. C'est, un travail peut passer comme ça. Donc il faut faire attention de ne pas dire quand il est là, oh non, 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 parce que la semaine prochaine sera, suivante sera un peu comme ça. Donc il nous faut vraiment la sagesse et la grâce pour en parler avec les gens comme ça. Oui, David. Ok, il ajoute que c'est nécessaire de bien de regarder le fruit porté dans le royaume ou ailleurs. Absolument. Merci. Ouais. Il y en a d'autres? C'est pas grave s'il n'y en a pas.
Égale quand même à un moment notre rémunération. Comment gérer ça? Moi, une des solutions que je pense, ça peut être de la redevabilité sur l'aspect financier, mais c'est encore un sujet très novateur. Mais comment gérer tes saisons de vie où, moi j'étais dans une église où les anciens avaient des bonnes situations et donc du coup, ils réduisaient leur temps de travail pour dégager du temps pour l'église en gagnant toujours la même chose. Et comment nous aussi de dire, moi je suis fonctionnaire, tous les 3 ans je gagne un peu plus, mais j'arrive pas à dégager forcément de finances parce que cet argent qui arrive, bon, il est noyé dans, j'allais dire la masse. Non, on va pas dire ça, mais comment arriver à gérer de dire de qu'est-ce que j'ai besoin, le contentement. Et tu dis, voilà, il y en a qui vont faire des affaires, mais quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois. Comment arriver à gérer de dire ben, j'ai besoin que de 3 000 et je peux donner 7 000 pour l'église? Enfin, ça serait juste. Mais comment faire?
Travailler pour la gloire de Dieu, ne coûte pas. Dieu, il ne te demande pas de donner une fortune à l'église. Il te demande tout simplement d'être fidèle dans ce que tu as, même si c'est 2 petites pièces. Et si pour toi, pour moi, pour Farid, pour d'autres, 2 petites pièces ou 2 Lamborghini, c'est ça, je donne ça. Mais Dieu, il cherche le cœur, il cherche la fidélité, il cherche une générosité, il cherche la foi. Donc nous, on veut avoir plus et c'est bien de vouloir avoir plus pour l'Église, pour dégager, comme tu dis, un peu plus. Mais ce n'est pas possible pour tout le monde. Mais Dieu cherche une fidélité. Et je ne sais pas ce qui se passe dans cette église, mais dans beaucoup d'églises, on ne parle pas trop, surtout en France, parce que tu as raison, en France c'est un peu. On ne parle pas trop de l'importance des finances, de l'argent dans nos vies. Et du coup, l'enseignement sur ce que la Bible dit par rapport à donner, on ne fait pas ça trop pour peur d'être un peu critiqué peut-être. Mais Jésus, il en parlait tout le temps. Et ce qu'il voulait avoir, c'est juste sa fidélité. Je donne, que ce soit 10% ou autre. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. Il est magnifique. Wow, oui, absolument. Et juste imagine une église où chaque membre, toutes les personnes donnaient, mettons, 10% de leurs revenus. Wow! Ce sera une église qui pourra faire énormément de choses pour la gloire de Dieu. Donc pour l'instant, on est un peu bloqué. Il y a des gens qui sont généreux, il y a d'autres qui ne donnent pas trop. Avec amour, on encourage. Ouais.
Ok. Merci beaucoup, Georges. On peut le remercier d'être venu de Paris. Merci, Gilles, d'avoir été là avec nous. Voilà. Non, on a vécu une super journée. Merci pour cet enseignement. Et voilà, on va le diffuser. Et c'est important de se positionner par rapport au travail. C'est pas toujours évident. Merci de nous avoir recentré sur aussi l'importance d'être des témoins partout où on est. Et je crois que c'était un des points principaux que tu as voulu nous transmettre. Eh bien, bonne semaine à tous. Rentrez bien. Je ne sais pas si quelques-uns peuvent vérifier si tout est à peu près bien rangé. Luc, toi, tu restes... Merci beaucoup. Et puis, à dimanche prochain.